France Inter. Karine Bécard, Ali Badou. Le 7-9.
Jeudi 22 avril, bonjour à tous, bon réveil et bienvenue sur France Inter. Marion Lourd, bonjour.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, cartable, masque et test. C'est la liste des fournitures pour la rentrée scolaire lundi. Elle aura bien lieu malgré l'épidémie qui dure. Précision sur les modalités ce soir en conférence de presse avec le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale. Les autres titres, Marion ?
Après la crise sanitaire, rétablir aussi l'économie. Réunion à Bercy ce matin sur l'avenir des aides aux entreprises, alors que certaines préparent la reprise du travail grâce aux innovations technologiques. Tunnels gonflables et dalles lumineuses, on vous présente ces nouveaux outils dans le journal. Dans le journal encore, les États-Unis sont de retour sur le sujet du climat. Première étape, un sommet mondial organisé aujourd'hui par Joe Biden. Et puis, le café dont vous avez toujours rêvé, savoureux et qui ne se dégrade pas à haute température, dégustation à la fin de cette édition.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50 avec vous, Karine Bécard.
Elle est une grande patronne, la première femme en France à avoir dirigé un groupe du CAC 40. Discrète depuis son départ de la direction générale d'Engie, elle vient d'accepter de servir de guide pour les jeunes qui ne savent pas toujours comment entrer dans le monde du travail et de l'entreprise. La nouvelle présidente de l'association Les Entretiens d'Excellence, Isabelle Cocher, sera notre invitée tout à l'heure à 7h50.
À 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Vaccin, Brexit, Irlande du Nord, Emmanuel Macron, Tony Blair répondra aux questions d'Inter.
France Inter.
Reprendre le chemin de l'école, oui, mais comment ? La rentrée en maternelle et primaire aura bien lieu lundi prochain, malgré les chiffres de l'épidémie qui stagnent à haut niveau. Trop tôt, estiment certains, à droite notamment. Et qu'en pensent parents et enfants ? Avis partagé sur le marché du Neubourg dans l'heure au micro de Laurent Philippot.
Qui veut de la gariguette là ? Deux paniers, 6 balles.
Sur le marché, on musarde, on profite du soleil, on fait quelques achats. Lise, en CM2, est pressée de retourner à l'école.
Pour revoir mes amis, pour travailler, pour apprendre plus de choses. Parce qu'à la maison, on a du mal. Enfin, moi, j'ai du mal à travailler à la maison. Ils ne nous expliquent pas la même chose, en fait. Nos parents, ils n'ont pas la même façon que nos professeurs.
La rentrée lundi, Peggy n'est pas contre. Mais elle travaille comme ATSEM dans une école, alors elle s'interroge.
L'école était à peine déjà fermée, que monsieur Macron parlait déjà de reprendre l'école en 2 jours. Comment il pouvait se dire qu'on pouvait reprendre le 26 avril? On ne sait pas ce qui va se passer, on n'a même pas eu de protocole sanitaire encore qui est tombé. C'est peut-être un peu trop rapide. Après, on peut peut-être reprendre l'école avec des mesures bien définies.
Martin enverra bien son fils Arthur, 8 ans, à l'école lundi, sans problème.
Si vraiment il fallait faire les choses très sérieusement, il faudrait peut-être prolonger d'un mois, ce qui me semble être assez catastrophique pour les enfants et pour les parents. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on reprend lundi, je ne suis pas sûr que ça mette les hôpitaux encore plus à risque que ce qu'ils sont aujourd'hui.
L'école, c'est le plus vite possible pour Nicolas.
Les gamins, c'est vrai que le lien social, il faut le garder. Les enfants sont pleins de vie, etc.
Nicolas, en fait, n'attend qu'une chose.
Vivement que les beaux jours arrivent, de façon à ce que ça redonne le moral à tout le monde. Et puis qu'on ressorte les grillades.
Laurent Philippot, France Bleu, Normandie, rentrée lundi et protocole sanitaire inchangé. Un cas de Covid égale une classe fermée et plus de tests, 2 autotests chaque semaine pour les enseignants, 1 pour les lycéens, des tests salivaires pour les plus jeunes, objectif 1 million par semaine. Arsenal en discussion cet après-midi au ministère de l'Éducation. Jean-Michel Blanquer reçoit les syndicats d'enseignants. Le ministre qui précisera encore les modalités lors de la conférence de presse du gouvernement ce soir aux côtés du Premier ministre. 1 heure de questions-réponses alors que le calendrier du déconfinement se précise. Fin de la règle des 10 km le 3 mai. Réouverture des terrasses, commerces, lieux culturels et sportifs dès le 17 mai. Jean Castex ne devrait pas s'avancer plus sur ces dates. Le chef du gouvernement se concentrera sur 3 gros dossiers, Maxence Lambrecq.
Rentrée scolaire, vaccination, contrôle aux frontières. Et pour le reste, rendez-vous la semaine prochaine. Ne comptez pas sur Jean Castex pour fixer le calendrier. C'est trop audacieux, dit-on à Matignon, avec toujours près de 6000 personnes en réanimation, soyons prudents. Le Premier ministre ne veut pas s'engager, à part sur la reprise des cours. Il exclut aujourd'hui tout allègement du couvre-feu le mois prochain. Mais alors, derrière cette confusion apparente, est-ce un jeu de rôle entre Emmanuel Macron et Jean Castex ? Le premier suscitant toujours l'espoir, le second l'angoisse. À l'Élysée, les perspectives positives, à Matignon, le discours de responsabilité. À en croire plusieurs conseillers, ce n'est qu'une question de caractère des deux hommes et non de stratégie. Il faut quand même dire que l'un est en pré-campagne et l'autre non. Jean Castex marche finalement dans les pas de son prédécesseur. La grande prudence d'Édouard Philippe avait fini par agacer le chef de l'État. On n'en est pas là. Le Premier ministre joue son rôle, prend les coups. Ce soir, d'ailleurs, les questions s'annoncent délicates sur la rentrée des classes.
Le 17 mai, c'est trop tard. Cri d'alarme des commerces dans le journal Le Parisien ce matin. Les principales fédérations de commerce et 150 patrons réclament une réouverture le 10 mai au plus tard. 800 000 emplois sont en péril, selon les signataires. Crise sanitaire, crise économique. Quelle limite au quoi qu'il en coûte? Question au cœur de la réunion ce matin entre la ministre du Travail, le ministre de l'Économie et les partenaires sociaux. Le chômage partiel tel qu'il existe aujourd'hui pourrait être prolongé de 2 mois jusqu'à début juillet. Pendant ce temps, des entreprises imaginent comment utiliser les nouvelles technologies pour cette sortie de crise. Leur projet s'appelle Be Lifeline, tour d'horizon de ces innovations qui vont peut-être vous changer la vie, avec Kathleen Comte.
Portez votre masque. Entrez s'il vous plaît.
Voilà ce que pourraient bien entendre prochainement les salariés des entreprises en arrivant au travail. Il leur suffira ensuite d'entrer dans le sas vitré, d'attendre quelques secondes et de ressortir. Tony Bordello, responsable du développement de Be Lifeline.
Donc là, on pénètre à l'intérieur du sas de désinfection. On a une désinfection par ionisation qui s'effectue sur une dizaine de secondes. Toutes les personnes et tous les objets qui ont pénétré à l'intérieur de la cabine sont du coup désinfectés. La réduction de la charge virale est à 99,99%.
Ce procédé de ionisation change la charge d'un atome. Les molécules ici négatif capture les polluants pour les plaquer au sol. Quand on sort, on ne porte donc plus de charge virale sur nos vêtements. Et ce sas, appelé Isola, n'est pas la seule technologie développée. Un tunnel gonflable utilise la brumisation sèche. Des dalles lumineuses désinfectent aussi par rayons UVC. Il y en a donc pour tous les secteurs, festivals, écoles, entreprises. Angelo Gopé, directeur général de Live Nation dans l'événementiel.
C'est intéressant, on va les contacter pour qu'ils viennent nous voir et essayer de modéliser effectivement leurs connaissances, leurs compétences par rapport à nous, nos spécificités. Ils ont des idées, nous on a la connaissance du terrain et des salles, à nous d'essayer de les accompagner pour qu'ils produisent au mieux ce qui correspond à nos métiers.
Comptez 2 500 € pour un tunnel gonflable et entre 8 000 et 30 000 € pour un sas de désinfection par ionisation.
Sus aux fraudeurs de la crise sanitaire. France Inter vous dévoile ce matin le bilan annuel de la répression des fraudes. Contrôle renforcé sur le commerce en ligne. Près de 3 000 offres de gel hydroalcoolique notamment ont dû être supprimées l'an dernier. Tarifs trop élevés, 70 sites ont été bloqués. Bilan complet sur notre site franceinter.fr. Allez, la preuve, s'il fallait que le vaccin, ça marche. Ça se passe aux États-Unis, une maison de retraite du Kentucky quasi entièrement contaminée par la Covid le mois dernier. Contaminée, oui, mais sur les résidents vaccinés, 11% seulement ont dû être hospitalisés contre 2/3 des non-vaccinés.
7h07 sur France Inter, la suite du journal. Et on reste aux États-Unis, Marion, avec un sommet d'envergure mondiale.
Et un tournant dans la politique américaine du climat. Le président des États-Unis, Joe Biden, organise un sommet d'ampleur cet après-midi. Une quarantaine de chefs d'État réunis en visioconférence. Emmanuel Macron, le chinois Xi Jinping, le russe Poutine ou encore le pape François. L'Europe vient d'annoncer son objectif de réduction des gaz à effet de serre, 55% de moins d'ici 2030, 40% d'émissions en moins pour le Canada. Sandy Dauphin, la balle est maintenant dans le camp de l'un des plus gros pollueurs de la planète, les États-Unis donc.
C'est d'abord une tribune pour Joe Biden qui doit annoncer le nouvel objectif américain de baisse d'émissions de gaz à effet de serre pour 2030. L'accord de Paris prévoit en effet que 5 ans après son adoption, les pays soumettent de nouveaux plans climat plus ambitieux, et le compte n'y est pas. Celui des États-Unis, deuxième pays le plus émetteur de CO2 après la Chine et donc très attendu, explique Damien Navizé, expert climat à l'Agence française de développement.
C'est important pour tout le monde que les États-Unis puissent clairement et devant le monde entier montrer qu'ils sont de retour dans le multilatéral pour le climat et expliquer leurs engagements.
La réussite du sommet dépend surtout de l'état de la relation entre la Chine et les États-Unis. Leur coopération en 2015 avait été décisive pour parvenir à l'accord de Paris sur le climat.
Ce qui est positif, c'est que la Chine, pendant les années Trump, n'a pas cessé de discuter et a pris des engagements. Alors, ils peuvent être insuffisants, mais la neutralité carbone de la Chine à 2060, qui a été annoncée l'année dernière, ils l'ont annoncée sans que les États-Unis soient présents autour de la table. Dans le moins positif, c'est simplement que les rapports entre les États-Unis et la Chine se sont quand même un petit peu dégradés. et que Joe Biden, c'est pas non plus le grand ami de la Chine.
Joe Biden est également attendu au tournant pour financer les grands programmes climat des Nations Unies abandonné sous Donald Trump.
Aux États-Unis encore, nous avons une chance de pouvoir changer, disait hier le président des États-Unis après la condamnation de l'ex-policier George Floyd pour avoir tué l'afro-américain, l'ex-policier Derek Chauvin pour avoir tué l'afro-américain George Floyd. Pour l'instant, les choses ne changent pas. Hier encore, en Caroline du Nord, un policier blanc a abattu un père de famille noir et désarmé. Récit de notre correspondant aux États-Unis, Grégory Phillips.
Andrew Brown Jr. tentait visiblement de prendre la fuite à bord de sa voiture, mais n'était pas armé. Le policier, venu présenter un mandat de perquisition, ouvre le feu entre 5 et 8 fois, selon les témoins. L'homme est mortellement blessé. La famille exige maintenant de voir les images de la bodycam, la caméra, fixée à l'uniforme du policier. Avant-hier soir, c'est à Columbus, Ohio, qu'une jeune fille de 15 ans, Makaya Bryant, a elle aussi été tuée par les balles d'un policier blanc. Elle était armée d'un couteau et tentait de frapper une autre jeune fille, mais la famille de la victime parle d'une réponse disproportionnée de la part de l'officier. Depuis la mort de George Floyd, il y a presque un an, plus de 180 Afro-Américains ont été tués par la police, 18% des victimes, alors que les Noirs ne représentent que 13% de la population des États-Unis. Le bilan est dressé par une association qui milite contre les violences policières. Après le verdict condamnant Derek Chauvin, Joe Biden avait, depuis la Maison-Blanche, souhaité un changement significatif dans la manière dont sont traités les Noirs dans ce pays. Mais les faits divers de ce type sont quasi quotidiens.
Grégory Phillips, le correspondant de France Inter aux États-Unis. Des missiles sur la Syrie, tout près de Damas ce matin, présentés comme des représailles par Israël. Tsahal affirme qu'un missile syrien a atterri cette nuit dans le désert du Negev au sud du pays, tout près d'une installation nucléaire secrète. Nous serons en direct de Jérusalem dans le journal de 8h sur France Inter. Le renseignement britannique se modernise. Le MI5 fait son apparition sur le réseau Instagram, au programme entre autres des questions-réponses en ligne entre internautes et officiers. Objectif affiché, toucher les plus jeunes et faire preuve de transparence. Du foot avec le casting de la demi-finale de Coupe de France. Monaco et le PSG se sont qualifiés. Les Parisiens ont balayé Angers 5-0 hier soir. Ils retrouvent en demi les amateurs de Rumilly et le club de Montpellier.
Marion, pour finir, vous prendrez bien une tasse de café ?
Oh oui, aujourd'hui vous n'avez quasiment que deux choix, malheureusement, Arabica ou Robusta. Mais une autre espèce de café va peut-être révolutionner vos petits déjeuners, selon une étude publiée dans la revue Nature Plants. Des chercheurs montpelliérains et les jardins botaniques royaux en Angleterre ont découvert une variété délicieuse et qui résiste aux hautes températures, Martin Delacoux.
Si vous prenez du café en grains le matin, vous utilisez de l'arabica, c'est le plus réputé, mais aussi le plus fragile. Le robusta, lui, est plus résistant, mais aussi moins bon. On le retrouve notamment dans le café instantané. Coffea stenophylla a les qualités des deux. C'est ce qui a attiré l'attention des chercheurs. Delphine Miguelet du CIRAD est celle qui a coordonné la dégustation scientifique de cette variété.
Les experts qu'on a réussi à réunir ont relevé de ce café des notes florales que l'on ne trouve pas chez le robusta, donc qu'on trouve chez arabica. Par exemple, des notes de jasmin, de rose, donc des parfums subtils.
L'épreuve du goût est donc passée. Mais cette espèce, qui pousse naturellement en Afrique de l'Ouest, a d'autres qualités. Elle s'adapte à des températures plus élevées, 6 degrés de plus que l'arabica. Delphine Miollet.
Ça nous permet de planter Stenophylla dans le futur aux altitudes qui correspondent au robusta.
Autrement dit, remplacer la moins bonne des deux espèces.
Voire aux altitudes qui correspondent à l'arabica actuellement. Mais dans 50 ans, c'est-à-dire avec des conditions climatiques qui auront changé à ces niveaux-là.
Une manière d'avoir un coup d'avance sur le climat tout en évitant le jus de chaussette dans nos tasses.
Et vous, Ali, vous préférez le café au parfum de jasmin et de rose ou bien le jus de chaussette alors ?
Je n'y ai jamais pensé, mais je vais y réfléchir.
À la machine Merci. De France Inter, c'est jus de chaussette.
Ça, c'est sûr. Merci Marion Lourd. À suivre le Zoom sur l'oxygénothérapie, une méthode de soins et de surveillance à distance des malades atteints de troubles respiratoires.